Paroles d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. En trois émissions de suite, ce soir, demain soir et jeudi soir, nous allons travailler sur le thème « Les acteurs du livre ». Pour cela, nos invités viendront de la région PACA, mais aussi d'ailleurs. Car Agora est bien toujours la place du village, le lieu de rencontre, d'échange et de débat de la cité et dans la cité. Quant à la Côte d'Azur, je ne l'oublie pas. Elle est au départ l'expression forgée par Stéphane Liégard en 1887. La Côte d'Azur originelle allait de Marseille à Gênes. Maintenant, elle s'est rétrécie. Mais tout en gardant l'expression Côte d'Azur, nous ne pouvons oublier l'azur. Un mot d'origine persane, ce bleu clair et intense, celui d'un ciel d'été, n'est pas le monopole de la côte. Pour cette émission, par exemple, il nous conduira en Normandie. Les acteurs du livre. Souvenez-vous, nous prenons souvent ce thème de Louis Lavelle, philosophe du début du XXe siècle, qui a écrit en 1942, en pleine guerre, mais aussi pour notre époque, « La corruption de la parole et de l'écriture est la marque de toutes les autres corruptions. » Et souvent, en résonance à cette phrase, je dis « La résonance de la parole et de l'écriture est témoignage de toutes les autres résonances. » Eh bien, ce soir, nous allons rendre hommage à l'écriture, rendre hommage aux livres, rendre hommage aux auteurs, aux éditeurs, aux libraires et aux lecteurs, ce soir, demain soir et jeudi soir. Et je voudrais à tous aussi leur dire « Explorons ce qui est en train de se faire ». Car souvent, nous entendons des commentaires plus ou moins pessimistes sur le livre, sur la lecture, etc. Eh bien, ce soir et dans les deux autres émissions, nous allons essayer d'explorer des résonances. Et pour cela, ce soir, nous allons travailler avec deux éditeurs, qui sont aussi des auditeurs et aussi des lecteurs, mais je n'ai trouvé que deux femmes, et je dirai tout à l'heure que souvent, dans ma recherche de personnes, de partenaires, c'est surtout les femmes que j'ai rencontrées, tant pour les éditrices que pour les auteurs, que pour les libraires et pour les lectrices. Mais reviendrons sur cela en fin d'émission. Alors nous allons d'abord accueillir Emmanuel, de Haute-Normandie, de Basse-Normandie, je crois que c'est la Basse-Normandie, mais grâce à elle, c'est devenu la Haute-Normandie. Alors Emmanuel a une expérience d'une quinzaine d'années dans l'édition, une grande maison d'édition à Paris, et puis ensuite elle décide de choisir d'éditer sa propre maison d'édition, Le Soupirail, dans le domaine de la littérature francophone et étrangère contemporaine. Cela en février 2014, il y a donc déjà 2 ans. Bonjour Emmanuel. Alors, Emmanuel, merci d'être avec nous. Pourquoi cet intérêt pour le livre, et en particulier pour le domaine de la littérature francophone et étrangère ? Par ailleurs, mais qu'est-ce qui vous mobilise dans votre démarche, qui ne doit pas être simple ? Quels sont les problèmes majeurs que vous rencontrez ? Mais aussi les espoirs ? Et puis peut-être pourrez-vous nous présenter un auteur de votre choix, parmi tous les livres. Je vous laisse la parole, Emmanuel.
Donc, c'était plutôt cette idée de faire mettre en avant des univers littéraires d'auteurs qui ont ce regard un peu décalé sur la contemporanéité. Et voilà, donc à la fois le catalogue s'est développé sur des littératures francophones, comme un auteur d'origine iranienne, comme un auteur haïtien, un auteur français aussi, et puis des littératures étrangères, comme le domaine des Balkans, la Bulgarie, la Roumanie, le domaine hispanique aussi, les îles Canaries, un auteur aussi andalou. Et peu à peu, le catalogue s'est développé, et à ce jour, on a 17 titres au catalogue. Voilà, avec principalement de la fiction, donc du roman, des nouvelles, un recueil de poésie et puis des premiers romans aussi, comme l'auteur haïtien avec Les enfants des cyclones, qui a reçu 2 prix. Et voilà, et ce qui mobilise, c'est la démarche, c'est-à-dire faire connaître des écritures, faire connaître aussi tout ce qu'apporte la littérature à sa propre vie, tout simplement. C'est une autre manière une autre démarche, disons, de regard sur le monde en dehors de tout ce qui est actualité et qui est l'immédiateté. Voilà, c'est une démarche aussi de intérieure, je veux dire, même pour les lecteurs et pour nous-mêmes. Non seulement la découverte d'une langue, d'un rythme, d'une manière de dire les choses, mais aussi avoir cet écart qui permet la réflexion aussi. Voilà, sur sur les problèmes majeurs de notre temps, qui sont d'ailleurs, je pense, dans la littérature pratiquement toujours les mêmes, hein, les problèmes d'immigration, les problèmes de la mort, les problèmes de l'amour, les problèmes du déracinement, enfin, etc. Ce sont toujours les mêmes problématiques de l'art, enfin, voilà. Et cette entreprise est une entreprise assez complexe, c'est vrai, dans les métiers culturels, je pense que ça l'est plus qu'ailleurs, avec des problèmes majeurs qui sont dus d'abord à la création d'entreprise en elle-même, qui est complexe, les problèmes de trésorerie que connaissent toutes les créations d'entreprises, et puis les problèmes de diffusion, distribution, ça nous amène à essayer d'établir des désaccords avec soit des gens que l'on forme, soit notamment pour le Sud, j'ai passé un accord avec un éditeur de DVD et de livres aussi qui s'appelle la collection Opus et qui donc accompagne aussi le Soupirail pour être présent, parce que l'intérêt c'est aussi d'être présent auprès des partenaires, des libraires et de provoquer aussi des rencontres lectures avec nos auteurs, de faire entendre les textes. Voilà, ça c'est très très important pour nous et pour accompagner ces textes qui sont certes de la littérature peut-être un peu exigeante, mais qui peut être approchée par tous. Il y a la notion peut-être aussi un peu d'effort, mais voilà, qui est une littérature qui permet d'avoir une autre approche, quoi, voilà, des choses. Et c'est vrai que un des auteurs notamment qui a été un des premiers publiés par le Soupirail, c'est Mahmoud Chokrolahi, qui est un auteur d'origine iranienne, qui avait publié des nouvelles qui étaient traduites du persan, et puis il a écrit ensuite en français, donc il est passé d'une langue à l'autre. Et cet accompagnement s'est fait aussi, la joie aussi de publier un auteur qui a une langue très très particulière, un univers, on va dire, entre, notamment je pense à son roman Le Cri, c'est un roman qui se passe dans un immeuble d'une grande ville, sans être spécifié de quelle grande ville il s'agit. Et c'est un univers qui se situe entre l'immeuble de Pérec, en gros, et Kafka. C'est un peu, voilà. Et cet univers assez particulier lui permet de décrypter justement tout ce qui fait le cœur des relations humaines, les relations de pouvoir entre les gens et de rapports entre le réel et l'imaginaire. Et c'est cet accompagnement aussi qui est important pour moi dans le travail d'écriture des auteurs et de leur univers.
Emmanuel, si je comprends bien, en particulier, vous suivez vos auteurs et vous les suivez de très près. Vous les accompagnez, comme vous dites.
Oui, et même physiquement, je les accompagne parfois. Et justement, le très bientôt en avril, du 21 au 23 avril, nous serons dans le Vaucluse, dans deux librairies, voilà, à Mazan, à Malocène, et voilà, pour présenter, pour lire les textes aussi. Quand je peux, je le fais vraiment avec plaisir, parce que je pense que quand le libraire ou l'association ou bien le lieu qui accueille l'auteur a vraiment ce désir de rencontrer et un éditeur et un auteur et d'expliquer un peu le travail qui existe, hein, entre auteur et éditeur ou entre traducteur et éditeur, je crois que c'est quand même important d'être présent. Et même s'il faut mettre du temps pour mettre en place tout ça, et c'est notre travail, en tout cas, de petite maison d'édition. C'est en tout cas celui-ci qui est aussi recherché par les auteurs qui viennent publier avec nous. Voilà.
Vous êtes sur un créneau qui est généralement négligé, minimisé ou oublié par les grandes maisons d'édition, non, Emmanuel ?
Oui, je pense que déjà, même sur les littératures étrangères, comme on traduit quand même relativement peu, finalement, il y a énormément de textes littéraires qui sont à découvrir, en dehors des zones classiques qui sont traduites, c'est-à-dire le polar, la science-fiction parfois, voilà, le récit. Et dès qu'on sort de ces zones-là, en fait, quand les auteurs ne sont pas, en fait, même les auteurs européens, hein, tout simplement, hein, d'ailleurs à nos frontières, hein, ne sont pas traduits. Ils sont traduits parfois dans 10, 11 langues et ils ne sont pas traduits en français. Donc c'est vrai qu'il y a de vraies richesses là dans ces littératures. Et chez les auteurs français, je crois que c'est la même chose. Je crois que les personnes qui écrivent et qui sont habitées par l'écriture ne réfléchissent pas en termes purement économique aussi de grandes maisons, donc de ce qui va fonctionner à ce moment-là ou pas, et très rapidement surtout. Maintenant, on est dans la rapidité. Or, je pense que c'est quand même à notre rôle aussi, voilà. Il doit y avoir une place pour cette littérature aussi. Voilà, c'est tout ce que l'on réclame en fait.
Emmanuel, rappelez-nous les références de votre maison d'édition.
Donc, ce sont les éditions Le Soupirail. Le site, c'est www.editionsplurielsoupirail.com. Et notre siège social est dans le Calvados, mais on se déplace aussi beaucoup sur des salons, et on essaie d'être présent en librairie. Donc, un peu partout, dans l'Ouest, dans le Sud, et au travers des rencontres, lectures. Voilà. Bientôt, on sera dans le nord de la France avec la poète syrienne qui va recevoir le prix Découvreur, avec le travail qui a été fait dans les lycées. Voilà. Mais ça aussi, c'est un autre pan d'immersion de la littérature et de la poésie, du texte auprès des jeunes aussi. Et puis on essaye de faire des gros salons, bon, évidemment, pour se faire connaître et pour rencontrer d'autres professionnels aussi, voilà. Et le libraire c'est un des points importants, évidemment, de notre travail, même si leur temps est assez compté, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas toujours découvrir ce que l'on fait au sein de nos propres maisons d'édition. Mais c'est vrai que pour nous, c'est très important qu'ils puissent au moins avoir la curiosité de regarder les textes et la qualité des textes que nous publions, parce que c'est vraiment un relais aussi essentiel pour nous, en dehors des cercles de lecture, et il y en a plein, et des gens en campagne. Voilà, je suis très sensible aussi à ça.
Quels sont vos projets, Emmanuel, pour les 3 ans qui viennent ?
Oh, pour les 3 ans qui viennent. Donc le premier objectif, c'était de, quand on crée, c'est d'avoir une visibilité, de développer un catalogue. Donc là, on peut dire que cette amorce, en tout cas, a été faite quand même sérieusement pendant 2 ans avec ces 16 titres au catalogue. Moi, je pense qu'après, on va avancer quand même assez relativement doucement, et de trouver toujours les niches pour faire vivre les textes, même après 2 ans d'existence. Hein. C'est ça aussi le but, hein. c'est de faire en sorte, par exemple, aujourd'hui, pour décembre, je prends des invitations pour l'auteur andalou, par exemple, du côté de Biarritz, dans des médiathèques, et voilà, et peu à peu, essayer de faire connaître les textes. Les objectifs, c'est de stabiliser au moins la production littéraire, d'accompagner les textes au mieux, de les rendre toujours disponibles, et de suivre aussi les auteurs qui auront d'autres projets dans les 2 ans à venir. D'équilibrer aussi tout ce qui est diffusion, distribution. Je pense pas qu'en tout cas dans les 2 années qui viennent, je pense que la maison gardera la main, disons, sur sa distribution, et même si on avance plus lentement, il y a moins de risques que de passer chez un gros diffuseur-distributeur immédiatement, qui peut être vraiment une menace, en fait, hein, pour la création. Voilà, ça c'est certain. C'est un des points très difficiles de notre métier, c'est la diffusion-distribution.
Emmanuel, si je comprends bien, par rapport à ce que vous aviez vécu antérieurement dans le domaine de l'édition, vous jouez vraiment le rôle de passeur, au sens le plus beau du terme, passeur entre l'auteur et les lecteurs, via les libraires, etc. Vous vous contentez pas de vendre des livres ?
Non, parce que je pense que ça m'aurait pas intéressé de me contenter de vendre des livres. J'aurais pu faire alors peut-être un peu n'importe où. Je crois que souvent les éditeurs disent qu'ils publient les livres qu'ils aimeraient lire. Oui, c'est vrai, je pense que c'est un partage de curiosité, de passion, et que la littérature est une affaire de passion. Après, effectivement, il faut pouvoir vendre aussi ces livres, mais c'est une nécessité. Mais il ne faut pas en faire un objectif premier. Voilà, il faut essayer de faire partager un peu de ce qu'est la beauté de la littérature. Voilà, parce que je crois que c'est un lien essentiel, un lien vraiment essentiel, sociétal même. C'est quelque chose de bien plus utile qu'on ne le pense dans l'équilibre même des personnes par rapport à se situer dans leur existence, hein, tout simplement. Je pense que c'est... Non, c'est vraiment ce partage qui m'anime. Voilà, c'est vraiment ce partage.
Et quand vous allez sur le terrain, vous vous rendez compte que finalement, cet effort pour lire ce type de littérature, ça fonctionne. On écoute l'auteur, on achète le livre et on est intéressé par ce qui se passe. C'est bien ça?
Oui, on est pris, en fait, l'intérêt des rencontres, lectures, où il y a un dialogue aussi après qui s'ouvre avec les personnes qui se sont déplacées, c'est de leur faire partager ce petit moment de beauté littéraire. Voilà, ça c'est essentiel. Et du coup, surgissent énormément de questions, d'envie, de curiosité, tout ça. Et je pense que c'est essentiel aussi, pas que pour les personnes qui sont présentes, hein, mais pour l'auteur aussi. Hein, c'est la réception, ce sont les dialogues qui s'instaurent en fait. Hein, et ça, on oublie un petit peu. Souvent on oublie et puis on se dit que ah oui, c'est une littérature par exemple exigeante, mais tout le monde ne peut pas avoir accès à ça, etc. Et c'est faux, il faut quand même aller... Moi, je vois les gens sur les salons aussi, hein, je les rencontre. Il ne faut pas s'autocensurer, il faut les laisser aller vers des textes, même vers lesquels ils n'iraient pas spontanément. Et d'un seul coup, ils y vont, et ils aiment, et ils écrivent, parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui envoient des mails ou qui envoient des courriers. Et ça, c'est un plaisir d'éditeur, parce que... c'est la preuve aussi qu'il y a un public, peut-être qu'il n'est pas ce qu'on appelle le grand public en masse, etc., etc., mais il y a un public qui cherche aussi cela. Et donc c'est celui-ci qu'il faut rencontrer, à qui il faut donner aussi de la qualité d'échange et de la qualité de contenu. Je crois que c'est important ça.
Merci Emmanuel. En tout cas, une très belle maison d'édition, Le Soupirail, des livres remarquablement bien présentés, sobres, mais très intéressants. Je vous les conseille, chers auditeurs. Merci Emmanuel.
Je vous en prie, je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
Écoutons cette musique pour terminer, même si elle dure pas longtemps. Elle vient aussi d'ailleurs de l'Azur. Continuons, chers auditeurs, la découverte des acteurs du livre, et ce soir, plus précisément, deux éditrices. Alors, nous allons accueillir une deuxième éditrice, une femme, une fois de plus, qui a créé à Corinth ce merveilleux village bio du Var. Rien que le village en lui-même exige que vous puissiez y aller, et si vous y êtes déjà allé, vous y retournez. Mais en plus, il y a une maison d'édition dont nous allons parler ce soir, qui vient de publier un merveilleux livre, Esprit de cuisine, Corinth, premier village de France. C'est un livre extraordinaire. Il y a d'abord d'excellentes recettes que moi j'explore, et je peux vous dire que certaines sont absolument extraordinaires, même si je suis pas encore très très bon en cuisine. Mais je m'améliore sans cesse. Il y a des photos absolument extraordinaires. Il y a des citations fabuleuses. J'en cite deux. La cuisine est multisensorielle. Elle s'adresse à l'œil, à la bouche, au nez, à l'oreille, à l'esprit. Aucun art ne possède cette complexité. Et puis cette deuxième citation de Salvador Dali, qui sait déguster, ne boit plus jamais de vin, mais goûte des secrets. Je trouve ça extraordinaire. Et dans ce livre, il y a toujours, pour chaque recette, un maître de chef de Corinth, il y en a plusieurs, qui vous conseille un vin. Alors nous allons accueillir Géraldine, qui a créé il y a quelques années une maison d'édition qui s'appelle Graines d'Argent. Bonsoir Géraldine.
Bonsoir Michel, bonsoir chers auditeurs.
Alors Géraldine, j'ai envie de vous poser une série de questions à nouveau, comme je l'ai fait tout à l'heure, et puis je vous laisse le temps de répondre. Pourquoi et comment avez-vous créé les éditions Graines d'Argent? Et puis quels sont vos projets pour les années qui viennent? Qu'est-ce qui vous mobilise à faire d'aussi beaux livres que ceux que vous sortez? Combien d'ailleurs à ce jour? Et alors, qu'est-ce que vous envisagez, encore une fois, pour les années à venir? Vous avez plusieurs projets, vous allez nous en parler. On vous écoute.
Alors, j'ai envie de répondre un petit peu en décalé à votre question, Michel, si vous le permettez.
Je vous en prie.
Sans bien sûr transformer votre très belle émission en séance de psychanalyse, je crois que il faut expliquer tout ça avec les débuts. Donc tout d'abord, il y a pour moi, depuis ma toute petite enfance, l'envie d'écrire et le fait d'écrire partout. Partout ça reste, partout ça dérange. Donc enfin, j'écrivais sous la table, j'écrivais sur la toile cirée, j'écrivais sur les murs, j'écrivais sur les sols, j'écrivais sur les papiers importants de mes parents, voilà. Et aujourd'hui encore, j'écris toutes mes idées, je fais des listes innombrables à tout point de choses. J'écris même parfois des mots invisibles avec mes doigts dans l'air, bon voilà. Ensuite, il y a aussi, dans le fond de tout ça, ce personnage très très important de ma vie, Marguerite, ma grand-mère, qui n'avait pas fait d'études, mais qui aurait adoré en faire, mais qui lisait énormément. Elle avait lu tous les grands classiques, elle aimait par-dessus tout les romans d'Hugo, qu'elle connaissait par cœur. Elle aimait les poésies de Lamartine, elle aimait l'exotisme de Gérard de Nerval. Et elle le lisait tout le temps, au petit déjeuner, durant la sieste. Et quand un passage lui plaisait, elle me disait tout le temps, elle me disait « Tiens, écoute-moi ». Et ma grand-mère m'a vraiment bercée avec cet amour du partage de la littérature. Voilà. Ensuite, je crois qu'il y a quelque chose de déterminant. J'ai une confiance indéfectible en la vie, qui est vraiment accentuée par l'idée de la possibilité du merveilleux en chacun et pour tous. Voilà. L'idée, en somme, hein, que la vie est belle. Et tout ça m'a toujours emmenée sur des chemins un petit peu décalés, où tout était possible et surtout ce qu'on n'imaginait pas. Voilà. Donc c'est tout à fait comme ça qu'en 2006, dans mon village, j'ai ouvert un très joli magasin qui était au-delà d'un magasin de marchandises, un concept de sociabilité, où tout naturellement, avec Muriel, mon associée, nous avons voulu vendre tout ce qu'on pouvait trouver dans une maison dans laquelle on serait heureux, en commençant bien sûr par des livres et par du vin. Voilà. On a rencontré comme ça un grand éditeur et ce grand éditeur m'a demandé d'écrire sur le lieu où on accueillait donc ce magasin qui était la Sainte-Baume. Et le possible est parti comme ça. Donc j'ai écrit un livre sur la Sainte-Baume avec un aquarelliste, Pierre, qui était un ami. Et ce livre a eu pas mal de succès. Et puis c'est comme ça que le maire de Corrance, donc comme vous le dites, qui est le premier village bio de France, situé dans le Var, nous a demandé de faire un travail un petit peu similaire à celui de la Sainte-Baume pour son village. Il avait été très touché par la perte d'un des ancêtres du village, en trouvant que c'était vraiment très triste qu'il se soit en allé avec tout un tas de secrets et tout un tas de choses dont il se rappelait. Voilà. Donc on peut dire que c'est vraiment ce deuxième livre qui nous a embarqué vers ça. Et bon, c'était une évolution un peu surréaliste, mais quand on y réfléchit, elle était en fait tout à fait naturelle. Et on a commencé à donc écrire, Sylvain, Pierre et moi-même, ce livre sur Corrance, à recueillir les mémoires. Et ainsi, créer une maison d'édition est devenue incontournable et bien évidemment, bien sûr, à Corrance. Voilà. Donc à cette époque-là, vraiment, on est en 2010-2011 et le village nous offre un présent inestimable. Il se livre, vraiment, sans restriction, sans contrepartie, sans attente, avec beaucoup de pudeur. Voilà. Alors on trouvait évident de lui donner cet outil humaniste, ce bel outil de communication en créant donc les éditions Graines d'Argent, hein, d'Argent, le nom du fleuve qui traverse le village. Et pour nous, à partir de ce moment-là, on veut vraiment que cette maison d'édition, qui d'ailleurs est associative, soit ouverte à tous, aux associations, aux particuliers, aux écoles, aux entreprises, afin de dire, afin de raconter. Voilà, on a vraiment créé cette maison avec l'idée qu'on voulait se mettre au service de chacun, en aidant les hommes à s'exprimer, les femmes bien sûr, et à expliciter souvent ce qu'ils avaient au fond d'eux. Et alors, bon, bien sûr, ce fut une aventure vraiment géniale devant laquelle on ne pouvait qu'avancer. Surtout, bon, voilà, de ces aventures qui lient les hommes et qui peuvent les aider à parler. Que dire, le travail sur Coran, ça a été vraiment très révélateur et nous a vraiment aidé à définir le réel aspect humain de l'éditeur. Puisque nous sommes éditeurs, mais nous ne sommes pas distributeurs, hein, donc nous ne faisons qu'éditer. On nous a ouvert des portes qui étaient fermées depuis longtemps, des personnes se sont mises à parler, alors que jamais elles n'auraient imaginé pouvoir le faire. Les hommes et les femmes du village se sont fait beaucoup de bien en se confiant à nous. Nous ont fait beaucoup de bien, bien sûr. Il y a eu énormément d'échanges et il y a eu aussi beaucoup de silence, voilà. Moi, j'aime apprendre. Bon, j'ai tout le temps envie d'apprendre des autres, de la vie. Et c'est vrai que, en travaillant à Corinthe, j'ai appris à me taire. Ce n'est pas gagné. Et surtout, j'ai appris à écouter les silences, sans les rompre. À observer, en fait, ces instants qui disent beaucoup de choses et en s'enfonçant même sans gêne. Et ça, j'ai vraiment trouvé que, en tant qu'éditrice, aller recueillir à la source les propos des personnes qui ont à se livrer, c'était un véritable cadeau et ça nous permettait aussi de faire un travail vraiment magnifique, voilà. Je crois tellement en la vertu de la parole et de l'écriture. Et se mettre au service des autres est primordial. Voilà. Voilà ce qui pour moi, mais aussi pour Claire, pour Sylvain, qui sont avec moi dans cette maison d'édition, voilà ce qui est vraiment important. Écrire, recueillir des mémoires, lire celles des autres, publier pour colporter en fait tout ça. Et pour nous, la maison s'articule vraiment autour de ces paradigmes de vie, c'est-à-dire écouter, retranscrire, aimer. Et le faire savoir aux autres, faire savoir aux autres que les uns les autres s'aiment et qu'on a tous des raisons de s'aimer. Voilà. Après, plus concrètement, nous essayons donc de porter conseil aux écrivains et à tous ceux qui veulent communiquer. Comme on l'a dit déjà tout à l'heure, hein, avec Emmanuel, on est des vecteurs, on est des passeurs, on doit complètement s'oublier. On est de véritables maillons de sociabilité. Voilà. C'est pour ça que la maison, on l'a voulu associative. On n'est absolument pas une entreprise et on se refuse d'en être une. On est plusieurs à y travailler. On a tous des métiers différents. Hein. La maison d'édition n'est pas notre travail principal. Et l'idée donc derrière, c'était vraiment de démarchandiser ce monde-là de l'édition, de le rendre accessible. Pour nous, c'est donc un outil de travail simple, sans prétention, qui est facile à utiliser, on veut qu'il appartienne à tous. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu une maison rurale, au cœur d'un village. Et d'ailleurs, pour en revenir à notre très beau livre « Esprit de cuisine, Corinthe, premier village bio de France », c'est vrai que donc l'agenda 21 du village de Corinthe, qui est l'un des plus beaux agendas 21 de France, puisque c'est un agenda pilote, entre guillemets, en le sens où il n'appartient pas à la mairie, nous utilise souvent. Le livre de recettes a été fait pour l'agenda 21, puisque c'était un collectif de cette association qui, au départ, a recueilli toutes les recettes. Nous travaillons avec eux également sur un livre sur la biodiversité, sur une étude qui a été faite à Corinthe depuis plusieurs années, entre avant le passage au bio et après le passage au bio, et une étude qui se révèle être vraiment formidable. Régulièrement, on aide aussi les maîtres vignerons du village pour des supports de communication. Bon, voilà, on aime intervenir et on aime vraiment se mobiliser. Voilà, ça c'est vraiment ce qui est important pour nous, c'est l'autre, c'est être, et c'est vraiment évoluer au milieu d'une communauté, quelle qu'elle soit. Comme je vous le disais, village, entreprise, école, on a vraiment cette idée qu'on ne peut pas prendre à la terre ou prendre à un lieu sans pouvoir lui rendre, sans pouvoir lui donner à notre tour. Voilà. Et cette notion, comme disait Emmanuel aussi, différemment, mais finalement assez similairement à moi, cette notion de partage, c'est vraiment ce qui nous motive. Et après, bon, il y a aussi, bien évidemment, il ne faut pas se cacher derrière ça, un professionnalisme qui est mis au service des autres. On aime tous se former, moi j'aime me former. J'aime toujours les nouveaux projets parce qu'à chaque fois, ils sont différents, ils nous permettent d'évoluer, de faire encore mieux pour la fois d'après. On est toujours très à l'affût de la tendance, du projet, de son contexte. On est très à l'affût des personnes qui nous demandent et qui se livrent à nous en toute confiance, parce que quand une personne arrive avec un manuscrit, elle s'en remet à nous, elle se met à nu, et ça c'est déjà un très beau cadeau. Voilà. Donc ce projet de lier les hommes, les femmes, bon, c'est ce qui nous motive le plus, avec bien sûr après au sein des villages et au sein des endroits où on évolue, des idées comme l'ouverture de bibliothèques sauvages dans des petites cabanes avec des livres qui tourneraient, comme des rencontres d'auteurs et bon, bien sûr tout ce qu'on peut imaginer de classique mais d'innovant aussi en activité qui entoure le livre. Voilà, Michel.
Géraldine, votre livre « Esprit de cuisine à Corrence », on le trouve où ? En allant à Corrence ?
Oui, bien sûr, on le trouve à Corrence, bien sûr. Donc on le trouve en priorité au Tabac Presse Le Piazza, qui est donc un très joli magasin qui vend tous nos livres. Et puis après, on le trouve dans toutes les bonnes librairies, parce que c'est vrai qu'on travaille à la commande, donc on ne diffuse pas. Mais on a quand même nos librairies amies, hein, bien évidemment, qui nous soutiennent et que nous soutenons. Et on arrive à trouver entre Montpellier, Nice, Marseille, Avignon, mais aussi Saint-Maximin, la Sainte-Baume ou quelques offices de tourisme, ce livre de cuisine, mais aussi les quelques autres livres qu'on a édités il y a quelques temps. Voilà.
Rappelez-nous les références de votre site, Géraldine.
Bien sûr, alors les références de notre site, c'est W3, édition au pluriel, -6, graines au pluriel, -6, d'Argence, alors D-A-R-G-E-N-S, comme le fleuve, .com. Voilà.
Géraldine, pouvez-vous nous parler un tout petit peu de la rencontre nationale de l'Association des écrivains et artistes paysans que vous allez organiser à Corrence, je crois, en 2017, dans un an?
Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, on a eu une rencontre de cœur avec Jacqueline Bellino, qui est donc la présidente de cette association qui existe depuis 1972, hein, et qui a pour but de sortir les paysans de leur isolement. Et nous avons eu tout de suite une envie de travailler ensemble, et nous avons eu l'envie de les aider à exporter cette mémoire vive et de la traduire, parfois de la redynamiser aussi. Donc nous avons créé une ligne éditoriale l'année dernière, en 2015, pour eux, qui s'appelle Collection Particulière. Elle a été créée à l'occasion de la sortie du livre Lueur d'Olivier, écrit justement par Jacqueline Bellino, la présidente. Et donc à partir de là, nous avons vraiment envie de travailler ensemble et de autour de tout ce qui est rural, du développement durable, des paysans et toujours pareil, de la mémoire. Voilà. Donc notre maison d'édition va en effet accueillir leur congrès annuel à Corrence en 2017. Et nous devons donc, nous, maison d'édition, pour ces 4 jours où plus d'une quarantaine, voire une cinquantaine d'écrivains paysans venus de toute la France vont venir nous rencontrer à Corrence. Nous avons donc à organiser 4 journées de rencontres qui vont être autant culturelles que professionnelles ou que littéraires, et nous avons pas mal de projets là-dessus. Voilà. Dont notamment la visite pour les écrivains paysans d'un lycée agricole que nous avons à Saint-Maximin, qui est aussi un lycée pilote en France. Et l'idée, c'est vraiment de se faire rencontrer ces écrivains qui avant tout sont des paysans, avec ces jeunes paysans qui ne sont peut-être pas encore écrivains, mais qui, on l'espère grâce à nous, pourront le devenir. Voilà.
Merci Géraldine. Je rappelle ce très beau livre « Esprit de cuisine, Corrence » et tout ce que vous faites autour de la maison d'édition « Graines d'argent ». Je cite, avant de passer au questionnaire, 2 citations de votre livre « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Une dernière citation « La cuisine ne se mesure pas en termes de tradition ou de modernité, on doit y lire la tendresse du cuisinier ». Alors je me permettrai de rajouter « Devenez cuisinier, chers messieurs ». Vous découvrirez votre tendresse, ce que j'essaie de faire.
Je suis sûre que vous y arriverez, Michel.
Je ne sais pas. En tout cas, je vous invite à répondre à ces questions, puisque nous avons du temps devant nous, Géraldine. C'est ce qu'on appelle le questionnaire de l'émission sur mon voyage. Je pense que tout ce que vous avez dit va être très facile pour vous de répondre. Trois mots qui rendent présent votre enfance.
L'amour. Le partage. Et le village.
Trois personnes vivantes que vous admirez le plus.
Trois personnes vivantes que j'admire le plus. Mes enfants. Parce que je trouve qu'ils ont toujours cette facilité à retomber sur leurs pattes et dans le monde qui nous entoure. Ensuite, je pourrais vous citer des personnes peut-être qui m'entourent, mais là...
Bien
je
sais
pas si je peux vraiment donner le nom à l'antenne.
C'est vous
donc
qui décidez.
Donc je garderai un joker.
Bien sûr.
Et puis ensuite, à qui je pourrais penser, vraiment des personnes que j'admire. J'admire pas en particulier des personnes. J'admire toutes les personnes qui travaillent pour les autres et toutes les personnes qui se mobilisent et qui savent surtout écouter. Parce que je crois que c'est une valeur qui se perd. Et quand on sait écouter l'autre... On a gagné pour soi et on a gagné pour le monde. Voilà.
À ce jour, qu'avez-vous le plus négligé de vous ?
Qu'ai-je le plus négligé de moi ? Finalement, c'est une émission de psychanalyse. Que vous
pas du tout, pas du tout. Absolument pas. C'est vous qui avez fait la psychanalyse tout à l'heure.
C'est moi qui ai fait la psychanalyse. Qu'est-ce que j'ai le plus... Je crois que jusqu'à présent, j'ai négligé toutes les femmes qui étaient en moi, si ce n'est la mère, puisque bon, depuis que je suis maman, je suis cette femme-là et je suis sûre de l'être. Après, je pense que toutes les autres femmes, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue intime, d'un point de vue, je les ai négligées. Voilà. Mais c'est vrai que l'écriture, qui est un réel cadeau, alors écrire, puisque j'écris, mais aussi se voir confier l'écriture des autres, c'est un vrai cadeau et ça me permet justement de me recentrer sur toutes ces femmes que je peux être aussi, à la fois.
Quelle est votre devise, Géraldine ?
Quelle est ma devise ? Ma devise, c'est « La vie est belle ».
Selon vous, trois mots pour parler de l'autre ?
Trois mots pour parler de l'autre ? Eh bien, je dirais en premier « empathie ». Ensuite, je dirais « silence ». Puis je dirais « amour ».
Alors, tout en continuant de répondre au questionnaire, je continue mes questions, on va entendre une musique qui nous vient aussi de l'Azur, qui va monter tout doucement et qui va clore cette émission. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous pour demain soir. Mais là, nous continuons le questionnaire jusqu'à épuisement de l'émission. Selon vous, Géraldine, qu'est-ce que vous laisserez en friche après votre mort ?
Qu'est-ce que je laisserai en friche après ma mort ?
Oui.
Je sais pas, je crois que l'idée c'est pas de laisser quoi que ce soit. L'idée c'est d'assurer une continuité auprès de mes enfants et auprès des gens que j'aime. Cette continuité qui est de dire qu'il faut s'écouter, qu'il faut s'aimer et qu'il faut se donner du temps les uns les autres. Voilà.
Vous avez tous les pouvoirs. Vous avez tous les pouvoirs, Géraldine. Quels sont les trois actes majeurs que vous posez ?
J'ai tous les pouvoirs. Quels sont les trois actes majeurs que je pose ? Je pose la paix, parce que je crois qu'elle est nécessaire sur la terre et en chacun d'entre nous. Je crois que je pose la curiosité et la curiosité de l'autre, puisque c'est se tourner vers les autres, c'est aussi se tourner vers soi et c'est permettre de mieux se comprendre pour mieux s'aimer.
Merci
et
beaucoup.
Ah,
oui, allez-y, je vous en prie. Et puis, oui, allez-y.
Et puis, je pose toujours pareil, l'empathie. Voilà.
Merci, Géraldine. Et bravo pour tout ce que vous faites. Et hommage à Corrence. La renaissance de la parole et de l'écriture est témoignage de toutes les autres naissances. En voici une preuve.